Et pour aujourd'hui, alors j'avais un peu prévu de faire une finale, mais j'arrive toujours pas à me dépêtrer dans quel ordre je dois amener les différentes positions pour que ce soit intéressant. Donc le temps que j'arrive à démêler le vrai du faux dans ces positions, j'ai décidé de vous faire la partie classique numéro 3. Alors la partie classique numéro 3, c'est une partie entre Paul Morphy et le comte Isouard et le duc de Brunswick. Alors, ben, on va vous situer un petit peu les différents personnages. Le Morphy apprend les échecs avec son père et il devient très très fort aux États-Unis. Et comme les États-Unis avaient un peu des problèmes à l'époque, ils décident... Enfin, ce n'était pas des problèmes, c'est que c'était tout jeune, la nation était, c'était en 1850. Ils décident d'aller sur le vieux continent affronter les maîtres des échecs, c'est-à-dire Anderson, Staunton, tous ceux qui étaient de l'époque, Paulsen, tous ceux qui étaient les grands des échecs européens. Et il va débarquer, ben il va faire un peu le tour de l'Europe, il va être à Paris, il va partir un petit peu en Allemagne, puis il va revenir à Paris. Et il va essayer d'aller, à l'époque, le pseudo-champion du monde s'appelait Staunton. Et c'est celui qui, officieusement, on déclarait comme le meilleur joueur de son époque, avant Morphy, bien évidemment. Et Morphy fera tout pour obtenir... le droit de jouer contre Staunton, et Staunton va toujours refuser. Je crois que Staunton avait vite compris que là, son titre ne tiendrait pas. Et donc, Morphy, il finira par repartir aux États-Unis un peu dépité, où il continuera un petit peu, et où il finira tranquillement, mais où il ne jouera plus aux échecs. Mais entre-temps, il va y avoir cette fameuse partie qu'on appelle la partie de l'opéra. C'est-à-dire que le duc de Brunswick, à l'époque, vivait à Paris. Alors c'était un individu, le duc de Brunswick, il avait une très forte paranoïa, c'est ce qu'il faut surtout savoir. Et dans sa maison, il y avait des passages secrets pour qu'il puisse s'enfuir. Enfin, c'était vraiment, il avait une paranoïa énorme. Et là, ils sont à l'opéra, pendant une représentation du Barbier de Séville. Et il y a l'orchestre qui joue, pendant cette partie-là, le duc de Brunswick se fait assister par le comte Isouard. Donc ils étaient à deux en consultation contre Paul Morphy. Et bah, ça parlait assez fort, il paraît même que ça coupait un peu presque la parole aux gens qui étaient en train de chanter sur scène. Et donc, on va voir cette partie. Alors, on commence par Eva 2, Eva 4. Eva 7, Eva 5. Cavalier Gustave 1, Félix 3. David 7, David 6. Alors c'est amusant qu'en France, le duc de Brunswick joue la défense Philidor, qui était lui considéré comme le meilleur joueur de son époque 100 années plus tôt. David 7, David 6, et D2, D4. Il faut voir que Morphy, lui, il n'est pas venu en Europe sans avoir étudié. Il a lu l'ouvrage de Philidor, l'analyse des échecs, où Philidor dit que les pions sont l'âme des échecs, et tout son jeu est basé sur un jeu positionnel avec beaucoup de tactique, mais basé sur un jeu positionnel, c'est-à-dire qu'il a très bien, 100 années après, c'est le joueur qui a mis en pratique les idées de Philidor. En fait, qui a émis ces idées-là un siècle auparavant. Et Donc, effectivement, Morphy arrive toujours avec un jeu assez positionnel. Donc, D4, on s'occupe du centre.
D4.
Il y a eu David 2, David 4. Ouais. Puis, maintenant, fou, César 8, Gustave 4. Alors ça, c'est une erreur. C'est déjà une première erreur. On n'est qu'au troisième coup, mais c'est déjà une erreur. Il aurait d'habitude en joué plutôt... On jouait plutôt cavalier C6, qui était déjà un coup douteux. On jouait D5, démange 5. Enfin, on jouait cavalier C6, cavalier César 6, plutôt que ce coup de fou. Tout de suite, les blancs réagissent en faisant David 4, mange Eva 5. Et tout d'un coup, on voit que les blancs, que les noirs ne peuvent pas faire David 6, mange Eva 5. Parce que sans ça, ils perdent un pion. Parce que s'ils font David 5, David 4, David 6, pardon, mange Eva 5, il y a Dame David 1, mange David 8, Dame David 8, il y a Roi, mange David 8, et il y a Cavalier, mange cavalier Félix 3 qui mange le pion Eva 5. Donc, pour éviter de perdre un pion, bah, il n'y a qu'une solution, c'est que les noirs jouent fou Gustave 4, mange Félix 3. Les blancs jouent Dame,
mange
David 1, mange Félix 3.
Ouais. Pas.
Alors, et donc, David 6, mange Eva 5. Les noirs ont évité de perdre un pion. Mais en échange, ils ont cédé la paire de fous. Et bon... On va le voir tout de suite, ils ne sont pas ils ont un retard de développement. Donc, maintenant, fou, Félix 1, passe en César 4. Et oui, on menace la case F7. La case Félix 7, on menace le mat du berger, là. Tout bêtement. Donc, les noirs sont bien obligés de réagir. Et là, si on réfléchit, il y a deux réactions possibles. Il y avait Dame Félix 6. Voilà, qui était mieux parce que ça continuait à tenir la pièce. Et en fait, les Noirs ont joué cavalier Gustave 8. Félix 6. C'est la deuxième erreur. Alors là, les noirs, les blancs font un simple coup qui continue à attaquer la case Félix 7. Je vous laisse un petit peu chercher un coup qui met de la pression sur la case en R1. Voilà, donc Dame Bella 3, c'est un bon coup. Ça met une double pression sur la case Félix 7, et ça met une pression sur la case Bella 7.
Ouais.
Ce qui fait qu'il y a un des deux pions qui est perdu normalement. Les noirs décident en fait de garder le pion qui leur amène le plus de risques, et ils jouent Dame Eva 7. Pour garder le pion en Félix 7. Mmh. effectivement, il bloque le fou, déjà, pendant ce temps-là. Donc, le Rock va être beaucoup plus long à effectuer. Donc, le Roi risque... C'est une des parties qu'on montre en exemple, généralement, lorsqu'on veut montrer un roi qui se fait prendre au centre. Donc, Dame Eva 7. Et maintenant, il faut trouver un coup. Effectivement, là, les blancs pourraient très bien jouer Dame Bella 3, mange Bella 7. Ils pourraient, mais ce n'est pas ce qu'ont joué les blancs. Morphy, il avait appris une chose énorme quand il jouait, c'est pour lui, on joue avec... Il emmenait tous ses jouets à la nurserie, comme disent certains Anglais pour expliquer la chose. Il jouait avec toutes ses pièces. Et là, il en profite, il joue cavalier, Bella 1, César 3. Donc, de toute façon, alors, Bella 6, ce ne serait pas une bonne idée. Maintenant, ça ferait des trous dans la position pour y rentrer la dame et le roi serait très embêté très vite. Donc, les noirs ont décidé de ne pas s'occuper vraiment. Donc, ils jouent César 7, César 6. Ça protège, comme ça, le pion. Bella 7 avec la dame qui est en Eva 7.
Ah,
les noirs jouent fou César 1, Gustave 5.
Gustave
5. Et c'est là où il faut remarquer une chose amusante. C'est que pour l'instant, le mieux développé, ce sont les blancs. En plus, maintenant, en jouant fou Gustave V, les blancs ont un clouage du cavalier sur la dame. C'est-à-dire, le cavalier qui est en Félix VI ne peut plus bouger. Et là, les noirs font leur troisième erreur. Il joue Bella 7, Bella 5. Ça attaque effectivement le fou. Alors, que faire de ce fou ? Il faut voir que si là les blancs retirent leur fou, par exemple, si les blancs le jouent en fou Eva 2, par exemple, les noirs n'auront qu'à jouer Dame B4, Dame Bella 4, pour forcer l'échange des dames, et l'affaire sera à peu près équilibrée. C'est pour ça que les blancs, alors, vont jouer un coup qui reste légendaire dans les... Vous allez voir, il y a plusieurs coups très très forts dans cette partie. Dans celui-ci. C'est cavalier, César 3, mange, Bella 5. On donne le cavalier pour deux pions et un clouage. Les noirs gagnants du matériel, ils jouent César 6, mange Bella 5. Et les blancs font fou César 4, mange Bella 5, échec.
Ah, échec.
Alors maintenant, ça pose un petit problème. Il faut parer cet échec. Bon, déjà, on ne peut pas jouer cavalier, Félix 6, David 7, on perdrait la dame. Il ne nous reste plus que deux solutions. va pas mettre la dame, on va pas interposer la dame non plus, parce qu'on perdrait la dame, tout bêtement. Donc il ne nous reste plus que soit déplacer le roi en David 8, soit mettre le cavalier en David 7. Le roi en David 8, ça aiderait les blancs. Parce que roi en David 8, ça permettrait Grand Roc, la tour viendrait en D1, donc, dans le Grand Roc, et donnerait échec, si le roi allait en David 8.
Ouais.
Donc, c'est pas une idée brillante. Ça n'aiderait que les blancs à se développer, à finir leur développement et à être encore plus agressifs. Donc, ben, on s'aperçoit que les noirs, la seule vraie solution qui leur reste, c'est cavalier Bela 8, David 7. Et les blancs, maintenant, ils continuent à développer leurs pièces. Ils jouent Grand Roc.
Ils jouent Grand Roc.
On met de la pression sur la pièce qui est clouée. Donc la pièce qui est en David 7, le cavalier, est cloué, c'est-à-dire qu'il ne peut pas bouger tant que le roi est derrière, et on l'attaque une deuxième fois. Ce qui veut dire pratiquement qu'on pourrait presque prendre la dame après, hein, si les blancs se laissaient faire. Si les noirs, jouaient autre chose que le coup qu'ils doivent jouer, on jouerait tour manche D7, et puis après on mangerait la dame. D'une manière ou d'une autre, puisque comme on enlèverait la tour de D7 pour faire échec, avec le fou qui est en B5, ça gagnerait la dame. Donc il ne reste qu'une solution, c'est de jouer tour pour défendre le cavalier, c'est tour Anna 8, David 8. Donc on se retrouve effectivement avec une position bien bloquée autour du roi. Et ce cavalier qui est cloué. Maintenant, Morphy, comme je vous l'ai dit, il savait, lui. Alors, il faut voir que Morphy, il joue avec le fou en G5, le fou en B5, le fou en Gustave 5, le fou en Béla 5, la dame en Béla 3, une tour qui est en David 1, et si on regarde bien les pièces actives chez les noirs, il y en a peu. Sachant que le fou qui est en Félix 8, et la tour qui est en Hector 8, elle ne joue pas. Je veux dire, peu importe, le fou, le cavalier qui est en David 7 est cloué, et le cavalier qui est en Félix 6 est cloué aussi. Ça lui laisse quand même beaucoup de marge. Et là, Morphy va se montrer égal de lui-même, et il joue tour David 1, mange David 7. Alors, bien évidemment, la dame ne peut pas prendre. Sans ça, elle serait perdue parce que le fou en Béla 5 la mangerait. Le roi ne peut pas prendre. Il n'y a que la tour qui peut prendre. Mais si la tour prend, elle se retrouve clouée. On a juste changé la figure qui était clouée. Donc, tour David 8, mange David 7. Et on s'aperçoit que les noirs ont désormais une pièce de plus qui ne joue pas. Alors maintenant, le coup est pratiquement évident pour les blancs. C'est une rengaine qu'on répète souvent aux élèves, justement, pour qu'ils s'en souviennent au maximum. En anglais, ils disent « Bring all your toys to the nursery ». C'est amener tous vos jouets à la nurserie. Et ben là, c'est exactement ça, c'est attaquer avec toutes vos pièces. Et il n'y a qu'une pièce qui n'est pas dans l'attaque, et qu'on peut emmener, parce que justement, on va l'emmener avec un gain de temps. C'est de jouer tour H1, tour Hector 1, David 1. Et maintenant, on attaque une deuxième fois cette pièce qui est clouée. Et là, ça commence à devenir crucial. Parce que pour se défendre cette pièce, si je venais à prendre avec la tour, la dame serait perdue. Mm-hmm. Comme on l'a vu. Parce que le fait que je puisse enlever cette tour en donnant échec avec le fou à la découverte, ben c'est énorme. Le cavalier ne pourrait pas prendre, puisque mon fou G5 empêche ce cavalier de bouger. Sans ça, on prendrait la dame. Donc si on regarde bien, les noirs ont 3 pièces, dont 2 clouées, contre 4 qui sont à l'attaque. Donc les noirs sont en fait en infériorité numérique sur le secteur de l'échiquier où l'attaque se passe. Il faut regarder ça, hein. Le fou, Félix 8, la tour, Hector 8, ne jouent pas. Ce sont 2 pièces qui ne servent absolument à rien. Par contre, regardez chez les blancs, évaluez chacune des pièces blanches et regardez l'efficacité de chacune de ces pièces. La position est monstrueusement gagnante, on dira. Seulement, il faut aussi remarquer une chose. On a déjà une tour de moins. Les blancs ont déjà donné une tour. C'est-à-dire qu'ils avaient donné un cavalier, puis ils ont échangé leur tour contre le cavalier en David 7. Ça fait donc que ça leur fait une tour de retard. Ouais. Et pourtant, ils se retrouvent en supériorité sur le secteur de l'échiquier parce qu'il y a 2 pièces chez l'adversaire qui ne jouent pas. Donc, les noirs décident de se déclouer, de déclouer au moins le cavalier pour pouvoir reprendre avec le cavalier. Donc les noirs jouent dame, Eva 7, Eva 6. Il attaque l'autre dame, mais surtout il vient de se déclouer, c'est-à-dire que si on prend la tour qui est en David 7, le cavalier peut aller reprendre. Et ce ne sera plus la dame qui sera embêtée. Seulement, Morphy a encore trouvé une bonne idée. Parce que là, en fait, ce qu'il faut, c'est voir toute la combinaison. Elle est déjà là, la combinaison fabuleuse de Morphy. Alors, on va la jouer. Et Morphy, il commence par fou Bella 5, mange David 7, avec échec au roi.
Ah, sacrifié.
Alors, il y a une chose qui gagnait aussi, c'était de prendre en Eva 6 avec la dame, mais ça aurait été beaucoup plus long. Et ça n'aurait pas fait une partie aussi jolie. Donc, cavalier.
Cavalier prend fou.
Félix 6 mange David 7. C'est pour ça qu'il avait décloué sa dame et qu'il avait mis sa dame en E6 pour déclouer ce cavalier, pour pouvoir reprendre. Donc c'est bien, ça vient d'être fait. Maintenant, il faut poursuivre l'attaque. Et c'est là où Morphy, qui a vu sa combinaison depuis un petit moment, sait exactement ce qu'il va faire. Alors je laisse toujours 3 minutes pour réfléchir un petit peu, trouver une solution. D'accord. Donc en fait, la solution de Morphy est simple. Il fallait qu'il l'ait vu avant. Très difficile au niveau. Donc il joue dame B5. Bella 3, passe en Bella 8. Échec.
Bella 8, mais il va se la faire prendre par le cavalier.
Et effectivement, il va se la faire manger par le cavalier. C'est le but, il vient de sacrifier sa dame. Il sacrifie sa dame. Mais en échange, si on regarde bien maintenant, il y a un mat en un coup. Tout ça, tour David 1, passe en David 8, échec et mat. Il faut se dire que, il faut surtout regarder une chose, c'est que Morphy, il s'était pas si mal débrouillé que ça, face aux deux personnes en consultation, dont le duc de Brunswick, qui aimait beaucoup les échecs et qui se targuait d'y connaître un petit peu. Et surtout, cette partie, elle est très intéressante sur une chose, c'est que quand on regarde les joueurs, souvent, jusqu'à un certain moment, ils comptent les pièces qu'ils ont devant eux, comme si c'était un petit trésor qu'ils avaient amassé, pris à l'ennemi. Et ils les comptent, surtout les jeunes joueurs, ils comptent, ils recomptent ces pièces en disant « Oh ben là, ça, la tour, ça vaut 5, le fou, ça vaut 3. » Ils font leur compte, ils font leur petite épicerie. Et là, on s'aperçoit que Morphy, il n'a pas du tout joué à l'épicier, mais voilà. Morphy a joué avec ce qu'il y avait sur l'échiquier, c'est-à-dire une position avec un mat superbe. Voilà. Et cette partie est elle est montrée pour ça. Pour le fait que c'est pas la peine d'avoir 36 matériels de plus, si on peut mater avec une tour et un fou. On regarde aussi que chez l'adversaire, le fou qui est en Félix 8 et la tour qui est en Hector 8 n'ont jamais joué. On s'aperçoit que tout au long, toutes les pièces de Morphy, elles sont toutes parties sauf les deux nécessaires à réaliser un mat. C'est pour ça que Morphy est quand même considéré comme le champion du monde officieux, je crois qu'on dit comme ça, officieux, c'est-à-dire il n'a jamais été réellement champion du monde puisqu'il n'a pas, comme je l'ai dit au préalable, il n'a pas pu rencontrer Staunton mais il a battu tous les autres. Il a battu Andersen avec un score formidable. Andersen était le maître des combinaisons. Et Morphy lui a montré que lui aussi était pas mauvais de ce côté-là. Et Andersen a prétendu être un peu souffrant, mais que quand même Morphy l'avait battu à la loyale. Voilà. Mais il s'est quand même prétendu un peu souffrant. Mais bon, Morphy était le premier joueur qui ait joué positionnellement pour obtenir de la tactique. Parce qu'en fait, jouer positionnellement, ça signifie bien placer ses pièces. Et une fois que la position est bonne, la tactique, elle suit toute seule. Si nos pièces sont bien placées, elles font des tas de ravages chez l'ennemi. Voilà. C'est une partie courte, 17 coups. Que dire de plus ? Mais assez instructive.